Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM. C'est reparti, comme tous les mercredis, à cette heure-ci. Le temps ne fait rien à l'affaire vous propose pendant une heure un petit tour autour de la chanson. Le temps ne fait rien à l'affaire, une émission préparée, accommodée, mitonnée, mijotée par Jean-François. Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM 88.4.
La vie, j'ai passé un pacte. Malgré le poids du passé, ceux qui ont cru me casser, intact, prêt à tout recommencer, intact. Et si l'on m'accorde encore un acte, qu'importe dans quel décor, je le prends au corps à corps, intact, prêt à de nouveaux accords. J'ai vu passer plus de vagues que Bordeaux dans sa madrague. Je me suis payé les yéyés, le disco, la techno, et le rock, et le rap, et le slam, et le slam, l'électro, trop, c'est trop intact. Avec les gens, j'ai passé un pacte. Au cashbox jamais classé, oui mais ma voix garde assez d'impact dans le pape des voix cassées, intact. Et si l'on m'accorde encore un acte, qu'importe dans quel décor, je le prends au corps à corps, intact, prêt à de nouveaux accords. Je continue vers demain, ma petite bonne femme de chemin, hors des codes, hors des modes, loin du reggae qui est pas gay, du hip-hop qui est pas top. Moi la soule, ça me saoule, le raga, non mon gars, latino, là je dis non, intact. Avec la vie j'ai passé un pacte, malgré le poids du passé, ceux qui ont cru me casser, intact, prête à tout recommencer, intact. Et si l'on m'accorde encore un acte, qu'importe dans quel décor, je le prends au corps à corps, intact. Tac, prête à de nouveaux accords.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Marmite FM 88.4 pour une nouvelle livraison du Temps ne fait rien à l'affaire, l'émission de la chanson non crétinisante, puisqu'on vous le dit, c'est que c'est vrai, 154e du nom et première de cette nouvelle année que nous entamons d'un pas alerte, voire guilleret, avec une série de 4 émissions consacrées à Marie-Thérèse Orin. Marie-Thérèse Orin, c'est un personnage dans le monde de la chanson. Et pas que dans le monde de la chanson d'ailleurs. Si ses débuts de chanteuse datent de 1962, elle était déjà et est restée depuis actrice, tant au théâtre qu'au cinéma ou sur les plus grandes scènes lyriques. Mais la Marie-Thérèse Orin qui nous intéresse avant tout dans cette émission et qui nous a reçus chez elle le 30 septembre dernier alors que le quartier était mis en état de siège à cause des obsèques d'un mangeur de pommes que la mort toujours farceuse venait de pousser vers d'improbables sommets de popularité, celle qui nous intéresse d'abord, disais-je, c'est celle qui s'est produite dès ses débuts dans tous les cabarets des deux rives parisiennes et d'ailleurs, qui a côtoyé les plus grands et les plus petits aussi, qui a conservé intact, tiens c'est son mot ça, intact, le souvenir des uns et des autres, dont sa mémoire jamais prise en défaut a fait une référence dans la petite histoire de la chanson, et qui trimballe encore et toujours, et avec une inépuisable et visible jouissance sur les scènes où la chanson respire encore ses quelques petites années d'expérience et d'amour de la chanson et du public. Si vous la branchez sur le sujet, assurez-vous d'avoir ce jour-là un peu de temps devant vous, Marie-Thérèse, particulièrement lorsqu'il s'agit de parler de chansons et du genre loquace, prolixe, volubile. Elle dirait plus simplement « bavarde ». Et c'est un plaisir de l'écouter, gouailleuse et l'œil toujours pétillant et allumé comme s'il y avait une rampe d'invisible projecteur planquée pas loin. La chanson, Marie-Thérèse, c'est sa vie, son amour, son bonheur. On la sent heureuse de raconter sa carrière du ton de celle qui a fait une bonne blague à un système qui, tiens c'est étonnant, ne lui a pas toujours facilité les choses. Marie-Thérèse Orin a construit, et elle vous le dira, ça n'était pas facile, à son tour, sa liste de chansons pour les auditeurs du temps ne fait rien à l'affaire. Ces 10 chansons, qui ont d'ailleurs fait des petits, vous allez vite vous en rendre compte, ont servi de fil conducteur à cet entretien que je vous propose donc de partager durant 4 émissions. Et aujourd'hui, c'est la première.
Un brun, un blond, un inspecteur des finances, un grand garçon qui dormait sans pyjama, un chauve, un roux de la faculté des sciences, un sage, un fou qui venait de Panama, un tout petit qui racontait des histoires, et puis celui qui nageait comme un poisson, un chevelu amoureux de sa guitare, un ingénu, un pilier de procession. Et pourtant, elle n'est pas heureuse, la collectionneuse. Elle attend, même la nuit. Elle est toute creuse, la collectionneuse. Elle s'ennuie. Un brun, un blond, un fignoleur de « je t'aime », un grand garçon, un muet pendant l'amour, un chauve, un roux qui respectait le carême, un sage, un fou qui s'exerçait au tambour, un bâtonnier qui parlait comme au prétoire, un distingué qui portait chapeau melon, un Canadien, un Breton gardien de phare, un comédien qui jouait au petit garçon. Et pourtant, elle n'est pas heureuse, la collectionneuse. Elle attend même la nuit. Elle est toute creuse, la collectionneuse. Elle s'ennuie. Un brun, un blond, qui lui a pris 2 années. Un grand garçon qui n'a reçu que 8 jours. Un chauve, un roux, ah, celui-là l'a bien aimé. Un sage, un fou à qui l'on pense toujours. Et puis, la grande meute, la foule, des inconnus, des voyageurs, des passants, dans son esprit, leur nom, leur visage roule. Elle pourra dire qu'elle n'a pas perdu son temps. Et pourtant, elle n'est pas heureuse, la collectionneuse. Elle attend même la nuit. Elle est toute creuse, la collectionneuse. Elle s'ennuie.
Bonjour Marie-Thérèse Orin.
Bonjour Jean-François Grandin.
D'abord, j'ai de dire tout le plaisir que j'ai de te recevoir dans le temps de faire rien à l'affaire, de t'avoir enfin au bout du micro, parce que ça fait un petit moment qu'on avait ce projet-là.
Oh, bah, je ne suis pas tellement difficile à attraper.
Bah, ça y était, attrapé. Alors, j'ai une première question. Si je ne m'abuse, on peut quand même trouver que tu as un petit accent parigot. Ça ne correspond pas du tout à tes origines. Je croyais que tu étais auvergnate.
Je suis. de maman auvergnate, de papa breton. Je suis née à Clermont-Ferrand, en face de la statue de Vercingétorix, place de Jode. Et j'ai quitté Clermont, j'avais 11 ans, oui, 11 ans. Mes parents sont partis s'établir à Nice, donc j'ai suivi le mouvement. Je suis allée donc en classe avec des petites niçoises qui avaient un accent à couper au couteau. Et moi, j'ai toujours eu l'accent parigot. Et quand je suis rentrée au cours Simon, première scène que j'ai passée devant René Simon, à la fin de ma scène, il me fait « Oh bah toi, il n'y a pas besoin de te demander d'où t'arrives. » Je lui fais « Moi, monsieur, de Nice. » Il m'a fait « Écoute, ma petite fille, si tu dois rentrer dans la maison, il y a un truc qu'il faut que tu saches tout de suite. J'ai horreur qu'on se foute de moi. Tu ne peux pas être de Nice avec un accent comme ça. » J'ai dit « Si, monsieur, j'arrive de Nice. »
Alors, c'est une anomalie génétique, alors?
Je ne sais pas. Ma maman était une femme sérieuse. Je ne pense pas être la fille du facteur.
Alors, j'ai entendu parler donc de parents hôteliers à Clermont-Ferrand, oui, et d'une petite fille qui poussait la chansonnette assez jeune au milieu des, oui, tables de l'établissement familial, voire poussait la sébille éventuellement.
Oui, 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 oui. Parce que, tu sais, mes parents avaient une grande brasserie à Clermont-Ferrand qui faisait l'angle. Il y avait le théâtre municipal d'un côté et l'autre angle de la place, c'était le Café de Paris avec un hôtel au-dessus. Et donc, mes parents était propriétaire de cet endroit, qui était l'endroit où tout le monde venait, qui prendre l'apéro. Alors, il y avait des tranches horaires. Le matin, on servait, ça ouvrait tôt, il y avait le petit déjeuner, après ça, l'apéritif. Et il y avait, à certains moments de la saison, en été, à la belle saison, il y avait un orchestre, il y avait une terrasse avec une marquise, on appelait ça une marquise, tu vois, en verroterie, et il y avait un orchestre. Et tous les enfants, s'ils entendent de la musique, ils se dandinent, ils suivent le rythme. C'est après qu'on perd les choses en route. Et puis après, on peut peut-être les récupérer en travaillant. Donc moi, j'étais sous l'estrade, et puis j'écoutais les musiciens et je me dandinais. Et puis une année, ben, y a le batteur, qui, me voyant me dandiner sous l'estrade, m'a pris sur ses genoux. Et j'étais là, contente comme tout, et il m'a appris des chansons.
Alors, tu chantais quoi, là ?
Il faut se reporter à l'époque. Alors, mon grand succès, c'était La Chapelle abandonnée. Oui. Et j'ai jamais pu dire La Chapelle. J'étais toute petite, hein, j'avais quoi, 3 ans et demi, 4 ans. Alors, je ne pouvais pas dire la Chapelle abandonnée, je disais La Chapelle abandonnine. Alors, quand j'ai eu un petit répertoire, eh ben, je me suis pas dégonflée. Je suis allée derrière le comptoir, j'ai piqué une soucoupe. Et le soir, il y avait les tapeurs de carton. À 18h, il y avait les bourgeois clermontois qui venaient jouer aux cartes. Et dans la clientèle, nous avons eu Pompidou, qui était professeur au lycée Blaise Pascal à l'époque. Il y avait le grand-père ou le père, je ne sais plus, de Giscard. Enfin, il y avait les habitués. Et j'ai pris la soucoupe et je me suis plantée en face d'eux et j'ai commencé à chanter. Mon père est arrivé, m'a attrapé par le fond de culotte, et tous ces messieurs ont dit « Oh non, laissez-la, c'est mignon !» Oh, ils n'ont pas eu le temps de le dire deux fois. Après, tous les soirs, ils y avaient droit, et hop, les petites pièces. C'était encore les sous percés. Alors, les petites pièces, et puis je faisais ma récolte, et puis comme ça, et vas-y les sucres d'orge, et vas-y les manèges. Tu vois, j'avais déjà la bosse du commerce.
Voilà, donc c'est comme ça que démarre une carrière, en fait.
Si l'on peut dire. C'est-à-dire que j'ai fait la manche très jeune. Et alors, je vais te raconter l'anecdote. Tu sais, ma mère était une femme formidable. Tout d'une pièce, elle avait de l'humour, à l'emporte-pièce, elle était. Et elle était très copine avec Pompidou. Alors, il l'appelait ma petite Rinette et elle l'appelait Pompon. Et quand il a été élu, moi j'étais, je crois que j'étais au cours Simon à l'époque, quand il a été élu président de la République, ma mère m'a dit, ah dis donc, t'as vu, Pompon est président, alors tu vas aller à l'Élysée, tu vas lui dire, je suis la fille de Rinette. J'ai dit, mais bien sûr maman, mais on va m'accueillir à bras ouverts. C'est merveilleux, la crédulité des mères, c'est touchant.
Mmh.
Non, maman, ça ne s'est pas passé du tout comme vous m'aviez dit. De votre temps, c'était ainsi, mais aujourd'hui, les hommes ont meilleure manière. Le soir du grand jour, mon mari ne s'est pas jeté sur moi comme vos invités l'avaient fait sur les petits fours. Pendant que je me déshabillais, il s'était retiré discret dedans la salle de billard avec son ami Édouard. Un quart d'heure après, j'entendais pas. Je me dis, ça y est, la voilà, la minute du déchaînement de la brute. Eh bien non, maman, vous n'aviez pas raison de l'appeler de ce nom. Il m'a donné un baiser sur le front. Quelle émotion et en même temps, quel soulagement. Il m'a souri, il m'a dit bonsoir. Je m'en retourne avec Édouard. Il est exquis, c'est un mari modèle. Il fait tout aussi bien que vous. Le vol au vent, la pâte à choux et le potage à la conti. Mais si, mais si, mais si, mais si. Il est charmant, c'est lui qui fait mes robes. Il a un talent fou pour ça. Ce matin, il est arrivé avec un merveilleux drapé qu'il avait pris dans les rideaux du salon. Dieu que c'était beau. Et de plus génialement simple. Il avait dû veiller très tard hier avec ce pauvre Édouard. C'est lui qui ramasse les épingles. Oh, quel amour cet Édouard. C'est un chou ce garçon. Et avec cela respectueux, il n'entre jamais dans ma chambre sans avoir longuement frappé. C'est drôle. Lorsque nous étions fiancés, je n'avais pas remarqué qu'il avait toutes ses qualités. Hier, je lui ai dit, monsieur, comme vous cachiez votre jeu. Il m'a répondu souriant, que ne ferait-on pas vraiment pour l'argent? Il a toujours le mot pour rire. Oh maman, soyez rassurée. Je ne suis pas près de subir les horreurs dont vous me parliez. Adieu, maman, dormez sur vos deux oreilles. Ah, j'oubliais, j'ai invité à passer quelques jours chez moi Gabrielle, mon amie de la pension des Hirondelles. Vous savez bien, la championne du lancer du poids. Elle couche dans la chambre à côté de la mienne. Et toutes les nuits à peine, tout le monde est-il couché, qu'elle vient me retrouver. Nous faisons les folles et pendant ce temps, mon mari en fait autant avec Édouard. Je les entends tous deux s'esclaffer dans le noir. Maman, soyez heureuse, vous qui craignez pour mon ménage. Dans le bonheur, je nage et je crie vive le mariage.
Alors, quand tu es à Nice, je crois que tu fais conservatoire de Nice aussi avant de monter à Paris.
J'ai fait 2 ans de conservatoire à Nice parce que j'avais qu'une idée. Je pensais à ça depuis que j'étais gosse. Et donc, j'ai saisi l'opportunité. Je suis entrée au conservatoire de Nice. J'y suis donc restée 2 années. Et pendant la 2e année... Il y a eu un concours, c'était l'époque où Raymond Rouleau avait fait son concours « Une étoile se lève » ou « Une étoile est née », je ne sais plus, avec Europe numéro 1. Alors c'était la grande mode, c'était pas encore la Star Academy, mais il y a toujours eu ce genre de sport. Les profs d'art dramatique de la côte, toute la côte, a envoyé ses troupes. Et notre prof à Nice nous a dit, bon, il en a choisi certains, il a dit « Vous allez aller passer les éliminatoires ». Et on a commencé les éliminatoires en septembre et le concours, la finale, avait lieu à la fin de la saison, ça a duré toute la saison, et moi je me suis maintenue d'éliminatoire en éliminatoire, et la finale a eu lieu au Théâtre aux Étoiles à Monte-Carlo, avec un très beau jury, et j'ai remporté le yo-yo. Donc, alors...
J'ai vu une photo de ça, magnifique, je vais la montrer au micro de la radio, comme ça, ce sera, les auditeurs pourront voir. On voit une charmante jeune fille avec une jolie robe, c'est cousu par maman.
Ma maman m'a habillée à la ville comme à la Seine. Ma maman m'a habillée jusqu'à l'âge de 25 ans, au moins si ce n'est plus.
Ouais. Là, t'as quoi? T'as 17 ans là,
j'avais 17 ans.
Et donc, c'est à Télé Monte Carlo.
Télé Monte Carlo, oui, oui.
Le premier succès, en fait.
Oui. Et alors, donc, dans le jury, il y avait Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Il y avait Guettari. Des gens avec qui j'ai joué par la suite. Et il y avait, je me souviens, Vittorio De Sica, qui était magnifique, qui avait un charme fou. Il y avait un très beau jury. Il y avait Serge Reggiani. Il y avait du beau monde, comme on dit. Donc, j'ai gagné cette finale.
Et alors, qu'est-ce qu'on faisait quand on avait gagné? On avait gagné quoi, en fait?
Eh bien, on avait gagné... Alors, entre autres, moi, il n'y avait qu'un truc qui me branchait. C'était, il y avait, à l'époque, 1000 francs. 1000 francs, c'était une somme. Et il y avait un billet d'avion pour Paris. Et moi, je n'ai vu que ça. C'est ce qui m'a permis de venir à Paris, parce que ma mère n'était pas d'accord. Elle ne voulait pas me laisser filer. Mon père a été très intelligent. Il a dit, si, on la laisse partir. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Si jamais sa vie se déroule mal, si elle fait un mariage malheureux, qu'elle divorce, qu'elle est malheureuse, qu'elle a des enfants et que ça ne va pas, et que toute sa vie, elle nous dira « si vous m'aviez laissé partir, ça ne serait pas arrivé ». Donc, on la laisse partir telle que je la connais. Dans 3 semaines, elle sera rentrée, l'oreille basse, et elle ne nous emmerdera plus avec ses histoires de théâtre. Papa m'a accompagnée à Paris, avec toutes mes affaires, mes valises, tout ça. Et c'était en octobre 1956. Et voilà.
T'es pas redescendue 3 semaines après.
Je suis incrustée à Paris.
Je suis un jeune, j'ai 12 ans, je suis l'avenir, oui ou non. Je suis débile et je m'en vante, les débiles survivront. Politique, à la trique, la culture, aux ordures, le racine à l'usine, de Molière au cimetière. Pousse ta graisse, je t'agresse, je veux la place qui m'est due. Faut pas se gourer d'époque, pousse ton cul, t'as vécu. Je veux tout foutre en l'air, à part ça, ne rien faire. Le travail, c'est frustrant, je suis un jeune, j'ai 12 ans. Et vos gueules, les ancêtres, fallait pas me faire naître. Maintenant je suis là, faut compter avec moi. Regardez votre monde, est-ce qu'il vous ressemble encore? C'est à moi qu'il ressemble, hop du vent, hop dehors. On sera bien qu'entre nous, les vieillards du balai. Objection, votre honneur, pas d'objection, parfait. Plus de Dieu, plus de patrie, plus de papa, plus de maman. Je veux du cul, je veux du fric, je suis un jeune, j'ai 12 ans. Hier soir, je m'achète un fusil à lunettes. Le mec, il savait pas s'il devait, oui ou non. J'ai dit, c'est pour papa. Alors il a dit, bon, pas gonfler les adultes. Ils font dans le pantalon. D'âge mental, ils ont plus rien, pas plus d'huit ou d'iberge. Bac moderne, rien à faire. Du yaourt, leur gamberge. C'est les ordinateurs qui font tout leur boulot. À la cave, à la casse, à la gare, au poteau. À partir de 10 heures, on fait le tour de la ZUP. Gare à la fille qui rentre, gare au mec qui descend. Chercher des allumettes, il remonte pas très frais. Quelquefois avec un œil qui pend, c'est marrant. Faut bien que je me défoule, c'est le père Freud qui l'a dit. Sinon dans mon petit moi, j'ai une boule qui grossit. Question philosophie, vous voudriez bien faire un peu machine arrière. C'est trop tard mes chéris, Hitler vous a fait peur. Pas moi, il me fascine, lui la race des seigneurs. Nous la race des débiles. Nom de Dieu, je cause bien quand je veux. Tous les vieux, ces crétins s'imaginent qu'on pense rien,
qu'on est chastes et purs, la comtesse de Ségur. Pauvre con, dans ce monde, tout est chiffre, tout est nombre. Si on était 200, on serait obéissant. Seulement rien que dans la ville, on est 45 000. J'suis jeune, j'ai 12 ans. J'suis l'avenir, oui ou non. J'suis débile et j'm'en vante. Les débiles survivront. J'suis un jeune, j'ai 12 ans. J'suis un jeune, j'ai 12 ans. J'suis un jeune, j'ai 12 ans. J'suis un jeune, j'ai 12 ans.
Et donc c'est là que Paris s'ouvre à tes pieds devant toi d'une seule fois, d'un seul coup.
Paris s'ouvre à mes pieds. Non, non, on m'a déjà rabattu le clapet. Je suis allée me présenter, bien sûr, j'avais mon diplôme. Je brandissais mon diplôme, mon prix du Conservatoire de Nice, toute contente. Je suis arrivée au Conservatoire de Paris. Elle me dit, ah non, non, mais ça, les diplômes, oui, c'est très bien, c'est très bien. Mais non, vous passez l'examen d'entrée. Et mon prof m'avait donné Henriette, des femmes savantes, qui est un personnage... de jeune fille rangée, bon, tout à fait mon tempérament. J'ai eu le temps de caser 3 répliques. Et drôlin, 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 il y avait la sonnette. Et on m'a dit, merci mademoiselle. Hop, allez, à dégager. Je me suis retrouvée sur le trottoir devant le conservatoire. Et je me suis dit, bah, puisqu'on ne veut pas de moi dans les écoles nationales, eh bien, je vais aller dans le privé. Et l'école numéro 1, la plus connue, c'était René Simon. Je me suis pointée toujours avec mon diplôme, parce que je ne me dégonflais pas, j'avais toujours le diplôme que je brandissais, comme une légion d'honneur. Et je suis arrivée au cours Simon, mais alors là, je ne me suis pas laissée avoir, je n'aurais pas passé Henriette. Non, non, j'avais pris une beigne, ça suffisait. J'ai passé Valentin le Désossé, la scène que j'avais passée au Théâtre aux Étoiles à Monte-Carlo. Et là, c'était un personnage, là, il n'y avait qu'à entrer, tu vois. Et je suis restée 2 ans et demi chez Simon. Et j'aimais bien René Simon. Mais je dis toujours, c'est un homme, il n'aurait pas fallu le rencontrer aussi jeune. C'est un homme que j'aurais aimé rencontrer quand je faisais déjà ce métier et que j'avais la quarantaine, tu vois. Parce que ce qu'il nous disait à l'époque, René Simon, on prenait le dessus, on n'allait pas plus loin. Or, c'était un homme qui avait un œil et un jugement sur ce métier extraordinaire, extraordinaire.
Donc peut-être plus apprécié, on aurait plus apprécié en étant un peu plus mature. Quoi.
Voilà, il aurait fallu être un petit peu plus mature, oui, pour bien mettre en pratique ce qu'il nous disait.
Et alors à l'époque, donc, t'es pas du tout chanteuse, ça viendra après.
Mon premier engagement, c'était Roger Pierre et Jean-Marc qui m'ont engagé pour leur revue à l'Alhambra. Roger Pierre, Jean-Marc Thibault. Ça, c'était en septembre-octobre 59. Je suis entrée dans leur équipe en 59. On a joué cette revue à l'Alhambra. On jouait à bureau fermé, parce que c'était la grande époque de Roger et Jean-Marc. Et après ça, on a fait 3 ou 4 mois au Théâtre des Variétés. Et à ce moment-là, Johnny Stark a repris le spectacle pour nous emmener en tournée. J'ai travaillé avec Roger, Pierre et Jean-Marc pendant 1 an et demi. Et on se déplaçait, tu vois, quand on dit ça maintenant. Quand je dis certaines choses devant des jeunes du métier, je sens qu'ils me regardent et ils se disent « Mais cette bonne femme, elle remonte au diplodocus, parce que c'est pas possible, parce que c'est tellement loin de notre époque. » On se déplaçait avec un orchestre de 12 musiciens. 12 musiciens, c'était formidable. Il y avait, dès qu'il y a des musiciens dans un spectacle, c'est chouette.
Et plus personne n'a les moyens de se payer ça maintenant.
C'est terminé, ça c'est une époque révolue, maintenant on met des bandes. Voilà. Mais alors là, on a fait donc 1 an et demi, et quand je suis sortie de là, j'ai été engagée par une dame qui s'appelait Janine Dalméda, qui était agent d'artiste et productrice. Elle produisait la tournée Carsanti de Oscar avec Louis de Funès, parce que Louis était à la lisière de la grande carrière, mais pas encore. Alors, il voulait le tester sur un public de province. Donc, c'était Mondy qui avait créé le rôle, et Belmondo. Et la reprise, c'était Louis de Funès et Guy Bertil, dans le rôle du jeune, le rôle qu'avait créé Belmondo. On a fait la tournée à bureau fermé. Donc là, ils ont pu voir que Louis, ça y était, il avait franchi la dernière marche et qu'il était sur le podium. Et puis, ça a tellement marché qu'au retour, on a été programmé au Théâtre de la Porte Saint-Martin Et en totalité, ça a fait plus de 2 ans.
Et toi, là-dedans, t'étais la petite bonne qui devient baronne, c'est ça ?
Moi, j'étais la petite bonne, comme de bien entendu. Avec une voix comme ça, on ne peut jouer que les dames de mauvaise vie, les bonnes.
Mais quand même, tu devenais baronne.
À la fin, je devenais baronne et j'en faisais comme une baraque. Je m'en payais à cœur joie.
Je fais fi ça pour des canillés devant un mec tombe à les épaules comme une bouteille de Saint-Galmier dans un pucier, ça me fait tout drôle. Quand je ne sens qu'une demi-portion, je me dis j'aurai jamais mon compte, même en variant les positions. Faut bien regarder celui qui monte. Je me souviens, il y a quelques mois, je me suis fait un bourgeois de province qui était plus vicieux qu'un chinois. Heureusement qu'il était bon prince. Tant qu'il y a de l'oseille, tout est parfait. J'aime bien m'y retrouver dans mes comptes. Comme ça, tout le monde est satisfait. Faut bien regarder celui qui monte. Il y en a qu'on le souffle trop court, ils font tout le chemin par étape, entre chaque étape un discours. Pourtant faut bien que je me les tape, mais le pire c'est les compliqués. J'avoue que parfois j'en ai honte, même des jeunes et des baraqués, ça se voit pas toujours quand ils montent. Madame qui connaît bien le métier et qu'elle respecte sa clientèle, elle dit bien ce qui passe en premier, c'est la conscience professionnelle. Celui qui monte a tous les droits, faut lui donner tout ce qu'il demande. Quand ils sont pas contents, je le vois, elle regarde ce qui descendent.
Et vraiment, c'était chouette de travailler avec Louis. C'était une horlogerie. C'était précis. Après, on lui a fait la réputation d'un type pas facile, qui se prenait la... Pas du tout. Moi, je l'ai vu quelques mois avant sa mort. Pareil, on s'est sauté dans les bras. Il m'a jamais appelé Marie-Thérèse, il m'a toujours appelé Orin. Orin, mais enfin Orin, nom de nom. Orin, bougez-vous, Orin. Et je l'ai retrouvé pareil. Et il m'avait dit, j'ai été frappé quand la porte s'est ouverte. Il avait terriblement changé, il avait beaucoup maigri, il avait eu son accident cardiaque. C'était pour le tournage de La Soupe aux Choux. Alors, je ne sais plus quel agent m'avait envoyé là. Et l'assistant, à l'époque, on avait affaire aux assistants. Il n'y avait pas les castings, les machins. Ça n'existait pas. Les programmateurs, tout ça, ça n'existait pas. Comme dit, je ne sais plus si c'est Bourvil ou Fernand Reynaud dans un sketch qui disait « Qu'est-ce qui tue le petit ? C'est l'intermédiaire. » Eh bien, maintenant, nous ne vivons qu'avec des intermédiaires. Mais à l'époque, donc, c'était le premier assistant qui recevait. Et là, je suis reçue par un garçon charmant. Il me regarde. Et je sens qu'il se dit « Pourquoi on m'a envoyé cette fille ? » Elle correspond à aucun personnage. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, hein, de toute façon, dans La Soupe aux Choux. À ce moment-là, la porte s'ouvre et Louis arrive, flanqué de Jean Giraud. Il me voit là. « Oh, Rhin, mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Ben, je lui dis « Louis, on me convoque, je viens. » Alors, il dit « Bon, il se tourne vers le gars, il lui fait « Il faut trouver un rôle pour Rhin. » Alors, le gars fait « Ben, monsieur, je veux bien, moi, je veux bien, mais... » Alors, il fait « Qu'est-ce qu'il y a comme rôle, déjà, pour les femmes ?» Alors, il dit, eh bien, il y a la rosière. Ah, oh, ben, je dis là, alors écoutez, là, il y a prescription, hein, c'est du passé. Et puis, il y a l'obèse. Ah, ben, je dis là, je fais pas le poids, je faisais 53 kilos, alors je dis non, là, je fais pas le poids. Et il fait, et puis, alors, monsieur, il y a la centenaire. Ah, ben, je dis là, laissez-moi quelques années quand même. Voilà. Alors, il m'a dit, écoutez, Orin, on a un autre projet avec Giraud. Et dans quelques mois, on va faire un autre film. Alors, dès que vous verrez que ça se met en route, signalez-vous. Hein. Appelez-moi, signalez-vous. Et il est mort entre-temps. Eh ben oui.
La mort est passée ce soir-là pour prendre un gosse de 15 ans, pour le serrer dans ses grands bras et l'étouffer avec sa robe de jacinthe. La mort a couché ce soir-là dans le lit d'une belle fille pour une étreinte d'une fois et n'a laissé que cendre froide et sans parfum. Que tu es impatiente, la mort. On fait le chemin au-devant de toi. Il suffisait d'attendre. Que tu es impatiente, la mort. La partie perdue, tu le sais déjà. Tout recommencera. Le soleil sur l'eau, tu n'y peux rien. L'ombre d'une fleur, tu n'y peux rien. La joie dans la rue, les fraises des bois, tu n'y peux rien. Un sourire en mai, une valse, valse. Un bateau qui passe, tu n'y peux rien. Un oiseau qui chante, l'herbe du fossé et la pluie, tu n'y peux rien. La mort est revenue ce soir avec sa robe d'iris noir. La mort est revenue chez moi. On a frappé, ouvrez la porte, la voilà. Elle brûlait comme une lampe dans une nuit près de la mer. Elle brûlait comme un feu rouge à l'arrière d'un camion sourd sur les chemins. Que tu es impatiente, la mort. On fait le chemin au-devant de toi. Il suffisait d'attendre. D'attendre.
On va commencer la liste maintenant, si tu veux bien. J'ai vu que c'était une liste soigneusement travaillée, réfléchie, organisée. Et donc, la première chanson, ben, je te laisse nous dire.
Si je m'étais laissé aller, t'en aurais 50, là, des chansons sur la liste. Alors, j'ai gambergé avant de tirer ces 10-là. C'est très dur de choisir, tu vois, parce qu'il y a tellement de chansons que j'aime. Alors, moi, ce que je mets en tête, parce que pour moi, il y a deux choses qui me passionnent, c'est la chanson. Alors ça, la chanson, le jour où j'ai découvert, parce que j'étais comédienne au départ, et le hasard a voulu que, sortant d'Oscar, la même productrice me dit « Ah, Marie-Thérèse, je vais monter une comédie musicale la saison prochaine avec Patachou, et il y avait là-dedans Fernand Sardou et Jackie ». Et elle me dit, il y a trois petits rôles. Alors toujours, une prostituée, enfin toujours les rôles, jamais les duchesses. Et donc, elle me dit, Marie-Thérèse, il vaut mieux jouer trois petits rôles dans un grand spectacle que le contraire. Je dis, je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai donc embarqué pour cette aventure qui était la deuxième comédie musicale écrite par Bréfort, Alexandre Bréfort, qui avait écrit Irma la Douce, connue dans le monde entier. Et là, ça s'appelait L'impasse de la fidélité. Et donc, c'était Patachou qui jouait le rôle principal.
Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou.
Bois d'un outil, bois d'un outil.
Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé. Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. À l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin. Mais dans ses calculs, il se trompe, et quand on veut boire à la pompe, il nous arrive d'ingurgiter un grand verre d'électricité. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Comme il redoute que des canailles convoitent ses rabots, ses tenailles, en se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal. C'est commode, je vous jure. Et souvent la nuit je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin, mais ce n'est qu'un vilain requin. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari bricoleur.
Donc on a commencé les répétitions, on répétait en plein été. Et Pat, à l'époque, elle avait encore beaucoup de galas, donc elle nous lâchait au moins 3 jours par semaine pour aller dans les stations balnéaires, les stations thermales, bon, très bien.
Donc ça faisait un trou dans la répétition.
Voilà, alors un jour, le metteur en scène a piqué sa rogne et a dit « Bon, écoutez, c'est pas possible, moi, il me faut quelqu'un, on n'a pas prévu de doublure. » Et il me regarde, j'étais là en train de regarder les autres travailler. Il me fait « Bah tiens, toi là, viens là !» Au lieu d'être là à regarder les autres au boulot, eh ben tu vas venir, tu vas me doubler Patachou. Oh, ben moi, on me dit, je fais. Hein. Le compositeur a vu que je chantonnais pas mal et m'a appris les chansons du rôle. Et au bout de quelques temps de répétition, un jour, elle est arrivée, Pat, dans la salle. J'étais sur scène à sa place, en train de chanter une des chansons de son rôle. Elle est arrivée, elle a traversé, elle a attendu la fin de la chanson. Elle est arrivée sous la scène et elle m'a fait « T'es chanteuse, toi ?» Alors je lui fais « Ah non, non, non. Ah non, madame, non. Moi, on me demande de faire ça, je le fais, mais je ne suis pas chanteuse. » Bon, elle est montée sur scène et là, je la prenais, c'était les scènes d'ensemble avec les ballets, parce qu'il y avait des ballets, bien sûr, comédie musicale. Alors, donc, je la prenais par la main et je lui faisais faire son trajet. Et là, tout d'un coup, elle me fait « T'as pas voulu me le dire devant les autres, mais t'es chanteuse. » Je lui fais « Non, madame. Non, non, non. Je vois pas pourquoi je vous l'aurais pas dit. » Elle me fait « T'as jamais chanté ?» Ah, je lui fais « Si. » Il y a 2 ans, chez Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, 2 ou 3 ans, je chantais aux Ozoir-la-Ferrière dans les chœurs en poussant les décors. Elle me dit « Mais t'as jamais chanté seule ?» Non. Tu devrais. » Elle me dit « Allez, chiche. Je te donne pas de directive. » Tu choisis 4 chansons, 5 chansons, tu les travailles, tu te trouves un pianiste, tu te débrouilles. Et quand tu auras 4 ou 5 chansons de prêtes, tu me dis, voilà, j'ai mes chansons, tu viens déjeuner à la maison et tu me les chantes. Et je te dirai si ça vaut la peine de continuer. C'est très excitant quand t'es galopin, que tu démarres, que t'es là dans ta chambre de bonne et qu'une dame comme ça t'offre ce genre d'opportunité. J'ai dit d'accord. Alors j'ai commencé à enquiquiner tous les gars que je connaissais dans mon environnement.
Pour trouver une chanson.
Eh bien, pour trouver 4 chansons, tu vois. Alors, j'ai foutu 4 chansons. C'était un vide-poche, tu vois. Elles étaient faites pour aller ensemble. Bon. Mais, au bout de, je ne sais pas, 3 semaines, j'ai trouvé une pianiste qui était la pianiste d'André Claveau, qui était une dame, entre 2 âges, qui vivait chez son papa, sa maman. J'allais répéter chez elle. Et quand j'ai eu mes 4 ou 5 chansons de prête, j'ai dit à Pat un beau jour, Pat, ça y est, j'ai les chansons. Alors elle m'a dit, bon, eh ben tu viens déjeuner samedi, et on s'y met. Et on s'est retrouvés chez Patachou. Je me souviens du déjeuner, en entrée, il y avait des œufs en meurette, je pouvais rien avaler, la pianiste encore moins, on était dans un état tétanisé. Et à la fin du repas, Pat, qui était marié avec Arthur Lesser, qui était producteur, il voulait venir assister. Elle lui a dit non, ça c'est une affaire de femme. Et on s'est retrouvés dans le grand salon. Je me suis nichée dans la queue du piano. J'étais terrorisée et j'ai chanté mes 4 ou 5 chansons. Elle était dans le canapé en face. Elle ne m'a pas interrompue, elle a écouté. Et à la fin, elle me fait « Ouais, 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 faut continuer ». Et je vois très bien ce qu'il te faut comme répertoire, le mien. Et je me suis dit, parce que j'avais quand même déjà compris ce métier, je me suis dit, tout s'arrête là.
Mais elle ne va pas te laisser la place.
J'avais quand même quelques belles années de moins qu'elle. Et bon, eh bien, cette femme a été formidable. C'est grâce à elle si j'ai fait ma première télé. Quand elle a été directrice artistique de la Tour Eiffel, elle m'a fait passer dans son programme. Elle passait en deuxième partie, je passais en première partie. J'ai trouvé ça magnifique. C'était une femme formidable, Pat.
Et alors cette première télé, moi je l'ai vue. J'ai vu une
où
télé qui date, voilà, une télé où tu es absolument. Donc ça date, je crois, de mars 1961, où tu es langoureuse et râleuse, drapée dans un improbable paréo, dans un décor exotique d'île déserte dont on se rend compte avec l'élargissement final du plan qu'en fait c'est une agence de voyage, et ça s'appelle Mon île. Oui. Qui est-ce qui a écrit ça?
C'était une chanson que chantait Colette Renard. Alors là, tu me poses une colle, je ne me souviens pas des autres.
Mais c'est quand même un grand moment de télévision, ça.
Ah oui, puis qu'est-ce qu'on me l'a resservi? Alors celui-là, Alina, ils ont ça, alors dès qu'ils le mettent à toutes les sauces, et vraiment... Et alors?
Mais parce que tu ne te reconnais pas là-dedans?
Ben non, j'ai quand même beaucoup évolué depuis, tu vois. Et alors Pat m'avait dit, tu sais, le principe de l'école des vedettes, une femme... marrainait un garçon. Alors elle m'a dit, je peux pas te servir de marraine, il faut un gars. Alors elle m'a dit, je t'ai choisi Guy Béard, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu de ma vie, enfin que je connaissais comme auteur et compositeur, mais oui, que je connaissais pas dans la vie.
Ça aurait pu tomber plus mal.
Oui, et quand il m'a vu, j'avais 10 kilos de mieux, hein. J'étais bien garde. Comme m'a dit Patachou, un jour on s'est rentré dedans en passant une porte, elle regarde ma poitrine, me fait, bah dis donc, t'es pas venue toute seule, toi. Oui, j'étais assez rembourrée. Et il a plongé dans mon décolleté, il m'a fait, oh, vous avez de beaux seins. Ben, je dis, je vous remercie. Voilà.
Mon île est tout entourée d'eau. Pour y aller, faut un bateau. Mais moi, j'aime pas l'automobile. Mon île est pleine de rochers blancs où viennent se chauffer les serpents. Mon île n'a que des arbres au milieu qui n'ont plus de feuilles tant ils sont vieux. Mais moi, j'aime pas la forêt vierge. Mon île n'a pas d'église en pierre. Faut faire sa prière en plein air. Mais moi, j'aime pas l'odeur des cierges. Mon île n'a pas de belle maison pour y dormir sous l'édredon. Mais moi, j'aime mieux la belle étoile. Mon île n'a pas un habitant pour y causer de l'air du temps. Mais moi, j'aime pas les gens qui parlent. Mon île n'est pas plus grande que ça. On en fait le tour en quelques pas.
Mais moi, j'aime bien rester tranquille. Mon île est loin dans l'océan. J'y vais jamais car j'ai pas le temps. Et puis je m'en fous, j'aime pas les îles.
Alors on peut en revenir à cette première chanson de la liste. On a fait un petit détour.
Avec moi, on se promène beaucoup, tu vois, je suis très promeneuse. Oui, alors, la première chanson que je mets vraiment en tête, c'est « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Jamais on a écrit un aussi beau texte de remerciement au public. La première fois que j'ai entendu, c'était à Bobino par Barbara. Le soir où elle l'a créé, je pleurais comme une madeleine parce que elle a tout résumé. Et moi, j'ai toujours eu un très très bon rapport avec le public. C'est pas le public qui m'a, créé des difficultés en cours de route. Ce serait plutôt le métier, vois-tu, comme on appelle ça en généralité. Bon, mais le public, on m'a balancé devant des publics, dans des fêtes de la bière, dans des trucs où là, tu sais, faut y aller à l'âche. Eh bien, je n'ai jamais eu de problème avec le public. Ça a toujours été magnifique. Alors, c'est là où c'est cruel. Parce que tu voudrais que ça réponde pleinement, tu vois. Et Barbara, que j'ai très bien connue, avec qui j'ai travaillé, j'ai fait un mois à la Tête de l'Art avec elle, on partageait la même loge. J'ai bien ri avec Barbara. C'était une fille, c'était une tête intelligente, assez fantasque, mais c'était quelqu'un, c'était une personnalité d'exception. Eh bien, je trouve que son texte, c'est le plus beau texte qu'un artiste puisse écrire à un public, tu vois.
Mais alors, quand on réécoute ce texte, que je connais comme tout le monde et que j'ai entendu beaucoup, et j'ai entendu donc Barbara le chanter, surtout à la fin de sa carrière, où le public était en transe quand elle chantait ça, et « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous », elle le disait au public. Mais quand on écoute le texte de la chanson au départ, c'est un peu autre chose. J'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc, griffes au genou. Elle raconte une histoire d'amour de jeunesse qui aurait duré. En fait, j'ai l'impression qu'elle a fait, elle a transformé cette chanson dans son rapport avec le public, en lui donnant un sens qu'elle n'avait peut-être pas forcément au départ.
Et elle ne vivait que pour ça. D'ailleurs, elle disait toujours, je ne suis pas faite pour la vie à deux, je ne suis pas faite pour la vie de couple. Mais parce que l'amour de sa vie, c'était ça. Et moi, ce qui me touche toujours chez les êtres, c'est quand on arrive à percevoir... Moi, je suis sûre que quand elle était petite fille, et elle a eu une enfance quand même assez chaotique, étant donné les circonstances, la guerre, qui se sont cachées à droite, à gauche... Bon, ça a été pour un enfant, c'est très déstabilisant. Et je pense que dans sa tête, elle se disait un jour, je serai chanteuse, je serai connue, je serai... Elle avait déjà le projet du personnage Barbara, parce que c'était un personnage complètement fabriqué. Et ça, je trouve ça très émouvant. Et quand des êtres réalisent un rêve de gosse et qu'ils y arrivent, je trouve ça... Moi, ça me chambarde.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches et puis rien dessus. c'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route. Celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et je calme ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. D'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en allais loin. Vous fûtes infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fût doux. Oh, qu'il me fût doux ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour. Vous souvenez-vous, ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même vous en souvenez-vous, à vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup, j'avais fini mon voyage. Et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir je vous remercie de vous. Qu'importe qu'on peut en dire, je suis venu pour vous dire ma plus belle histoire d'amour. C'est fou.
Barbara aura donc à la fois ouvert la liste de Marie-Thérèse Dorin et refermé cette première émission, au cours de laquelle, outre notre invité, vous avez pu entendre Patachou dans Le Bricoleur, chanson bien sûr bricolée par leur ami commun Georges Brassens. Vous trouverez les références des différentes chansons entendues aujourd'hui sur le site de notre émission rienalafaire.com et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien. Merci à Julien qui était aux manettes aujourd'hui. C'était Le Temps ne fait rien à l'affaire, l'émission de la chanson non crétinisante sur Marmite FM 88.4. Salut, c'était Jean-François. à mercredi prochain.